C'est présentement l'Open de Cincinnati, autre tournoi préparatoire, oui, au US Open qui va débuter au cours des prochains jours. On a des Canadiens qui sont toujours en lice à Cincinnati et pour en parler, Hugues Léger du podcast Sur la ligne. Comment ça va, mon ami?
Allô Alex, ça va bien, merci.
Good, merci de prendre ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est jasé en ondes, mais très, très content de enfin te retrouver pour jaser tennis, une passion qu'on partage ensemble. Félix Auger-Aliassime qui dispute un match de quart de finale contre le numéro 1 mondial Yannick Sinner aujourd'hui. Un beau parcours pour Félix, puis une belle opportunité peut-être de relancer sa saison.
Ben, je comprends. Écoute, contre le numéro un mondial, qui est largement numéro un, là, je pense que Sinner, en ce moment, survole un peu le circuit. C'est le champion de Wimbledon, il y a quelques semaines. Je regardais, Alex, la piste un contre l'autre, et Félix mène 2-0. Donc, il y a eu trois matchs entre les deux. Il y en a un qui avait gagné par forfait de Sinner. C'était à Madrid l'an passé, quand Félix s'était rendu jusqu'en finale. Mais ces deux victoires remontent à 2022, justement à Cincinnati et au Masters de Madrid aussi en 2022. Donc, ça fait quand même trois ans. Sinner n'est pas le même joueur qu'il y a trois ans, on s'entend. Là, il a vraiment progressé. Mais quand même, c'est une vraie opportunité pour Félix de relancer sa saison qui est, ma foi, assez moyenne. Il sent d'autres Canadiens qui souffrent dans son dos au niveau du classement. Denis Shapovalov est à deux places de lui. Gabriel Diallo est au 33e rang maintenant. On sait que Félix est 27e. Donc, je pense qu'il y a un petit côté de fierté aussi, mais c'est un match important pour Félix aujourd'hui contre Sinner.
Est-ce qu'il y a les atouts, Hugues, pour passer à travers? Je veux dire, Félix a, tu sais, je sais que tu vas me répondre, oui, il y a les atouts, mais est-ce qu'il est réellement capable? Puis est-ce que toi, tu y crois? Parce que Sinner joue en constance, il y a des balles d'attaque, il y a un bon service, c'est le meilleur joueur au monde, puis c'est pas pour rien. Mais dans le cas de Félix, il y a souvent un manque de constance, de la difficulté avec les balles d'attaque. Comment il peut aujourd'hui réussir à passer à travers Yannick Sinner?
Bon, ma réponse maintenant pour Félix, c'est un oui, mais. Félix, en termes de technique, en termes de qualité de tennis, c'est vraiment un des meilleurs au monde. Sûrement plus haut que son classement en termes de qualité et de potentiel, mais le jeu maintenant a évolué. Ce que Sinner et Alcaraz ont amené depuis deux ans, c'est un jeu de créativité, un jeu d'attaque. Il n'y a plus de balles neutres, donc il faut provoquer des choses sur le terrain pour espérer gagner des points, des sets et éventuellement le match. Et c'est là que Félix va devoir se surpasser aujourd'hui. Est-ce qu'il va pouvoir créer des choses qui va pouvoir surprendre Sinner et sortir un peu de son pattern de jeu qui est, ma foi, un peu prévisible à l'occasion. Félix, on le voit, il est extrêmement constant au niveau du fond de terrain. Il peut tenir un échange avec n'importe qui, mais on va voir des balles beaucoup plus compliquées pour lui aujourd'hui. Donc, c'est lui qui devrait prendre l'ascendant au niveau de l'attaque et avoir de la réussite en peut-être montant au filet un petit peu plus, en provoquant des choses. Et c'est là qu'on va voir si Félix est prêt à passer à un autre niveau. Donc, c'est pour ça que je te réponds oui, mais. Donc, il a tout le potentiel, Félix, et j'y crois encore, mais je ne l'ai pas vu créer ce genre de situation tactique ou là où il pouvait prendre le dessus sur un joueur comme Alcaraz ou comme Yannick Sinner.
Les deux ont eu des semaines similaires jusqu'à maintenant. Là, toutes des victoires en deux manches. La seule différence, c'est que Félix a pu bénéficier d'un abandon de Arthur Rinderknecht un peu plus tôt cette semaine lors de la deuxième manche. Donc, niveau fatigue, ça se ressemble. Mais si tu avais à faire une prédiction pour aujourd'hui, tu choisirais qui?
Difficile pour moi de pas mettre Sinner comme favori quand même, mais je m'attends à un 3-7 aujourd'hui parce qu'il y a plein de facteurs qui font que Félix doit encercler ce match sur son calendrier de l'année. Il l'a su seulement hier, là, mais quand même, il voit cette opportunité-là. Donc, je pense qu'il va faire un très bon match, mais je m'attends quand même à une victoire de Sinner en 3-7.
On se prépare au milieu de tout ça pour aller vers le US Open, Hugues, qui va s'en venir dans la grande région de New York à Flushing Meadows. Victoria Mboko a décidé de faire un trait sur le tournoi de Cincinnati après sa victoire à Montréal. Elle va entrer dans ce tableau du US Open comme une tête de série pour la première fois de sa carrière à l'âge de 18 ans. Je pense pas qu'elle s'y en attendait si on y avait demandé au début de la saison. Mais comment toi, tu vois ça, qu'elle revienne après un championnat, qu'elle ait pris une pause et qu'elle rentre dans un grand chelem?
C'est incroyable. N'oubliez pas qu'elle est rentrée sur le tableau de Montréal sur un laissé-passer, sur une wild card. Donc, elle n'était pas dans le tableau. Elle aurait dû faire les qualifs normalement pour Montréal. Les organisateurs lui ont très, très justement offert un wild card parce qu'elle avait une saison exceptionnelle quand même au niveau de sa progression. Mais le fait qu'elle soit maintenant 24e mondiale fait qu'elle sera, comme tu l'as dit, une tête de série dans le tableau principal du US Open et qu'elle n'aura pas à affronter avant le troisième tour une autre tête de série. Donc, Donc ça, c'est quand même intéressant pour elle. Là, normalement, puis je le dis entre guillemets parce que c'est quand même très, très fort. Là, c'est un tableau de 128, mais elle n'aura pas affronté une des top 32 au monde. Et ça, c'est un sacré gros, c'est un sacré avantage là, qu'elle se retrouve 24e tête de série. Donc elle va avoir une entame de tournoi un petit peu plus facile. Et un petit parallèle avec Leila Fernandez qui a un peu chuté au classement. Leila est tout juste 32e, donc elle devrait être la 32e et dernière tête de série. Je lui souhaite qu'elle rentre sur le tableau comme tête de série parce que ça facilite l'entrée là, dans le tournoi.
Pour ce qui est de Victoria Mboko, elle va arriver un peu sur son air d'aller de Montréal, mais qu'est-ce qui va être le plus dur pour elle, Hugues, dans ce tournoi-là? Parce qu'elle était dans la bulle d'ici au stade IGA avec la foule qui était derrière elle constamment. Là, d'arriver devant un public new-yorkais qui, oui, est bruyant puis qui a énormément beaucoup d'ambiance aussi, mais le public ne sera pas nécessairement derrière elle non plus. Puis elle va avoir la pression à gérer le fait qu'elle est maintenant une tête de série. Est-ce que tu t'attends à un bon tournoi de sa part ou on pourrait peut-être vivre une certaine déception dans son clan?
Écoute, quelques éléments dans cette réponse-là. Bon, cette semaine, Vicky, tu l'as dit, fait l'impasse sur Cincinnati. Puis je pense que c'était sage après les émotions qu'elle a vécues à Montréal, après sa blessure au poignet aussi. C'était bien qu'elle prenne une petite pause. Je l'ai dit, tous les joueurs et joueuses prévoient leur tournée nord-américaine en fonction du US Open pour arriver à leur plein potentiel, à leur pic à New York dans deux semaines. Et Vicky, bon, elle a commencé très fort avec Montréal. Là, il y a une petite descente. Elle se repose un peu cette semaine. Je l'ai vu. Elle était à Toronto en début de semaine pour une tournée chez Sportsnet, chez Rogers. Donc, elle va reprendre l'entraînement tranquillement, mais il faut qu'elle remonte en force pour le début du tournoi qui, pour elle, devrait être autour du 26 août normalement. Là, si je regarde comment le calendrier, comment le tableau va commencer. Donc, on verra si elle peut se remettre bien en forme. Je ne suis pas trop inquiet. Elle est bien entourée avec Nathalie Tauzia, notamment comme coach. Donc, elle va être prête. Cela dit, toutes les joueuses maintenant ont regardé du vidéo de comment joue Victoria Mboko, quels sont ses points plus faibles, notamment sa deuxième balle de service qui peut être attaquable. On l'a vu à Montréal aussi. Donc, je pense que les joueuses vont être mieux préparées pour l'affronter. Toutes les joueuses seront à leur pic au niveau de la forme. Je pense qu'une Coco Gauff ne ferait pas le même match contre une Victoria Mboko US Open dans quelques semaines. Je pense que la foule va l'apprécier, par contre. On aime ces histoires Cendrillon à New York. T'sais, c'est un peu une underdog encore, une Vicky Mboko. Donc, je pense que la foule, tant qu'elle ne joue pas contre une Américaine, sera avec elle. Donc ça, je ne pense pas que ça va être un facteur tant que ça, mais c'est certain que le défi va être énorme. Et elle ne peut pas ne pas sentir une certaine pression quand même là, après cette performance. Ouais, elle a battu 4 championnes de Grand Chelem à Montréal, je le répète. Donc ça ne sera pas si simple que ça. Donc je lui souhaite un beau parcours, mais soyons pas déçus. Si jamais elle sort après 2, 3 ou 4 tours au US Open, c'est une progression qui va se continuer avec des hauts et des bas pour Vicky Mboko. Mais je suis convaincu quand même aujourd'hui, Alex, que ça va être une top 10 éventuellement.
Mais Hugues, top 10, c'est quand même une grosse déclaration. Là. Puis je trouve ça particulièrement intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le tennis ici à Montréal ou le tennis Canada en entier de voir une jeune joueuse qui émerge encore comme ça, autant pour le tournoi que pour le tennis à travers le pays?
Ben, ce qui est génial, évidemment, c'est que ça crée un effet d'émulation, un effet de participation. Il y a beaucoup de jeunes qui l'ont vu, qui ont envie de commencer le tennis. En ce moment, c'est nos inscriptions à Tennis Montréal et on a un niveau de demande exceptionnel là, pour les cours d'automne. Et c'est pas étranger au succès de Victoria Mboko. Puis on est chanceux depuis plusieurs générations, depuis Eugénie Bouchard, après Bianca Andreescu, Leila Fernandez, Félix, Denis. C'est tout ça, ben, on a de la relève à tous les 3-4 ans qui vient inspirer les jeunes et c'est sûr que ça vient encourager la participation. Puis aussi, je veux quand même te faire un petit point là-dessus. C'est le moment de réfléchir aux infrastructures à Montréal parce que des Masters 9, donc les 9 plus gros tournois au monde, on est dans ce peloton-là et on est le Masters le moins bien pourvu en termes d'infrastructures. Imagine, pour cette année, on a même dû resurfacer des terrains à Claude Robillard pour pouvoir accueillir les joueuses de la WTA parce qu'il manquait de terrain. Donc, c'est un dossier qui est le moment de reconsidérer. On est fier de l'Omnium, on est fier de Victoria, mais il faut se donner les moyens pour la suite aussi.
Bien, puis Hugues, cette semaine, j'ai vu des images. Cincinnati a refait peau neuve en entier ou presque. Ils ont tout refait les installations là-bas.
Ils doublent la superficie du site. Un investissement de 250 millions US.
Hey, c'est super. C'est bon pour le tennis. Puis je suis certain que les amateurs puis les joueurs et joueuses sont très contents de se retrouver là-bas dans ces circonstances-là. Mais imagine ici à Montréal d'avoir un toit sur le stade, d'avoir des courts supplémentaires, d'agrandir le site, de trouver des façons que ce soit encore plus intéressant pour les joueurs et joueuses qui sachent que Montréal et Toronto cette année, ça a été autre chose chez les hommes, là, mais qui sachent que Montréal, l'Omnium Banque Nationale, ce soit un incontournable dans leur calendrier, dans la préparation au US Open, que l'organisation est parfaite, qu'ils ont de bons et de belles installations, qu'ils soient bien accueillis, puis que la foule soit impliquée dans les matchs. Je comprends pas ce qu'on ne comprend pas de pas investir là-dedans.
Ouais, puis oublions pas que c'est le centre national à Montréal. C'est pas à Toronto, c'est pas à Vancouver. C'est nous qui avons le centre national qui formons ces champions-là, dont on est si fiers en ce moment et dont tout le monde parle depuis deux semaines. Mais faut se donner les moyens par la suite. On a un manque de terrain intérieur. Il y a des listes d'attente pour les programmes automne-hiver qui sont plus longues que le nombre de gens qui peuvent s'inscrire. C'est un chiffre assez parlant pour moi. Donc, il faut vraiment considérer qu'est-ce qu'on fait avec ces installations qui ont été très bien jusqu'à il y a 5-6 ans, qui nous permettent de rester dans les 14 plus gros tournois au monde si on met les 4 grands chelems en plus des 9 Masters 1000. Ouais. Mais là, c'est vraiment le temps de considérer, là, de mettre ça à jour et d'avoir plus de terrain et pourquoi pas plus de terrain intérieur et peut-être un toit sur le central.
Hugues, il nous reste une petite minute, mais il va y avoir une invitée de marque au US Open. On a donné un laissez-passer à Venus Williams qui est rendue à un certain âge, qui va se retrouver dans le tableau principal directement. C'est un retour pour elle.
Wildcard, donc un laissé-passer pour Venus, 45 ans, championne de 7 titres en Grand Chelem, dont 5 Wimbledon et 2 US Open. Mais je regardais, si jamais elle gagne un match, Alex, elle sera pas la plus jeune, la plus vieille à gagner un tour en Grand Chelem.
Ah,
c'est
ouais?
Martina Navratilova, qui a 47 ans, 2 ans de plus que Venus, avait gagné un tour à Wimbledon il y a quelques années. Donc, mais tout le monde, ça va être aussi une histoire importante au premier tour, là, le match de Venus Williams.
Est-ce que tu y crois?
Écoute, elle a pas fait un mauvais match il y a quelques semaines à Washington. Elle avait gagné un tour, mais écoute, on l'a vu à Montréal il y a deux ans, puis bon, le niveau était pas impressionnant, mais quand même, c'est une joueuse tellement puissante, elle a tellement un bon service que si elle tombe sur un bon tableau, ben pourquoi pas une victoire, mais ça va être compliqué.
Hugues Léger du podcast Sur la ligne, merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, puis on se reparle très bientôt, mon ami. C'est toujours le fun de jaser tennis, et l'US Open s'en vient, c'est une des plus belles périodes dans l'année.
C'est un grand plaisir, à bientôt.
Salut Hugues, bye-bye. Voilà, c'était Hugues Léger pour nous jaser de tennis et du US Open qui s'amène très bientôt. Dans les prochaines minutes, au retour de la pause, on s'en va parler à Zachary Mercier du journal Le Droit. Zach nous amène sur la table la rivalité canadien-sénateur. Comment ça va se développer au cours des prochaines années et comment c'est perçu à Ottawa cette rivalité-là? Ça vient nous parler dans deux petites minutes. Bougez pas.